de votre fidélité, vous êtes bien sur RFI, il est 3h à Paris, 4h à Gaza.
Mathis Limano.
Et à la une, Donald Trump persiste et signe, les habitants de Gaza doivent être expulsés de l'enclave, un site de démolition. Propos tenu lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche en compagnie de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui a salué le plan de Donald Trump pour Gaza, à savoir une prise de contrôle du territoire par les États-Unis afin, je cite, que Gaza devienne la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Donald Trump qui entame un bras de fer avec la Chine après l'entrée en vigueur ce mardi de taxes sur les importations chinoises. Pékin répond et taxe à son tour. Précision à suivre. La situation dans l'est de la RDC aussi à la une. Dans ce journal, on s'interroge sur le rôle que peut avoir l'Union européenne. Et puis en Suède, on ne connaît toujours pas les motivations de l'homme qui a ouvert le feu dans une école faisant au moins 10 morts. Faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Déclaration choc de Donald Trump à l'occasion d'une conférence de presse à la Maison-Blanche avec Benjamin Netanyahou. Avant cela, il avait promis que les États-Unis allaient prendre le contrôle de l'enclave palestinienne afin de la sécuriser et de la développer. Des idées qualifiées d'innovantes et saluées par Benjamin Netanyahou qui a estimé que le plan de Donald Trump pourrait changer l'histoire. Un plan impossible tant que les Gazaouis ne sont pas expulsés vers des pays de la région. Donald Trump y tient, et selon lui, c'est dans l'intérêt des Gazaouis.
Gaza est un chantier de démolition en ce moment. Il n'y a pratiquement plus aucun bâtiment debout. Et ceux qui le sont encore vont s'effondrer. On ne peut plus vivre à Gaza en ce moment. On a besoin d'un autre endroit. Un endroit qui rendra les gens heureux. Il n'y a eu que des morts à Gaza et ça fait des années que ça dure. Il n'y a que des morts et nous pouvons trouver une belle région pour réinstaller les gens de façon permanente, dans de belles maisons, là où ils pourraient être heureux, sans se faire tirer dessus, sans se faire tuer, sans se faire poignarder, comme c'est le cas à Gaza. Je ne pense pas que les gens devraient retourner à Gaza. Je pense que Gaza n'a pas été une chance pour eux. Ils ont vécu l'enfer. Gaza n'est pas un endroit où les gens devraient vivre.
Donald Trump lors de sa conférence de presse conjointe avec Benjamin Netanyahou. Le président américain a également promis de se rendre dans la bande de Gaza, en Israël, ainsi qu'en Arabie Saoudite, le royaume avec qui un accord de normalisation avec Israël est en bonne voie, ont indiqué les deux dirigeants. Et dans le dossier des tarifs douaniers imposés par Washington, Pékin lance sa riposte, 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, 10% sur d'autres produits comme le pétrole. Cette réponse de la Chine fait suite à l'augmentation par Washington de 10% des droits de douane sur tous les produits chinois. Et alors que les deux dirigeants doivent s'appeler dans les prochaines heures, Pierre Olivier, même si Donald Trump assure ne pas être pressé.
C'est une stratégie bien différente de celle du Canada et du Mexique. Avant même toute négociation, la Chine engage un bras de fer en taxant à son tour certaines exportations américaines et en portant plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Pour Jean-François Di Meglio, président du groupe de réflexion Asia Centre, il s'agit avant tout d'un message envoyé par Pékin.
De plus en plus, pour une population qu'on peut qualifier le sud global, les États-Unis deviennent le grand méchant et la Chine arrive à faire passer son message. C'est nous qui respectons les règles du jeu, c'est nous qui sommes dans la ligne du 21e siècle et l'Amérique recule et nous fait retourner dans un vieux monde. Ça a un impact de propagande.
Mais au-delà du message, la riposte de Pékin est tout de même moins agressive que les sanctions américaines qui, elles, concernent l'ensemble des produits chinois. Pékin qui ne veut pas prendre le risque de brusquer Donald Trump avant une phase de négociation.
Des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky y est prêt, il l'a dit lors d'une interview à la télévision britannique, si c'est la seule condition pour obtenir la paix. Ce mardi, un nouveau bombardement a tué au moins 5 personnes et blessé des dizaines en Ukraine. Un missile russe a frappé le centre-ville d'Izium dans la région de Kharkiv à l'est du pays. Plusieurs bâtiments résidentiels et un centre administratif ont été gravement endommagés selon le gouverneur régional qui précise qu'il n'y avait aucun bâtiment militaire dans la zone ciblée. L'Union européenne va-t-elle prendre des sanctions contre le Rwanda? Les 27 pays de l'UE sont d'accord pour accroître la pression sur Kigali afin de mettre fin à l'escalade dans l'est de la RDC. Fin janvier, les 27 avaient clairement condamné la présence militaire du Rwanda au Congo, demandé au M23 de se retirer et brandi la menace de sanctions. Mais depuis, les Européens peinent à trouver un consensus sur les mesures à adopter. Une nouvelle réunion de travail est prévue à Bruxelles ce mercredi.
L'éventail des options est large pour les Européens. Certaines mesures seraient symboliques, boycotter des réunions prévues à Kigali. D'autres, beaucoup plus concrètes, l'Europe pourrait décider de sanctions individuelles, de coupes dans l'aide budgétaire au Rwanda, voire de suspendre son partenariat avec Kigali sur les ressources minières ou encore le soutien financier de l'Europe à l'armée rwandaise pour sa lutte contre le terrorisme dans le nord du Mozambique. Un soutien controversé, ce serait la mesure la plus forte, Kinshasa la réclame, mais elle ne fait pas l'unanimité. Le Portugal, par exemple, est farouchement opposé à toute décision qui pourrait affaiblir Maputo. Quant à la France, elle plaide pour agir plutôt en coulisses et maintenir le dialogue avec tous les acteurs. Paris et Kigali se sont rapprochés ces dernières années et le Rwanda est devenu un partenaire précieux pour les intérêts stratégiques de la France dans le nord du Mozambique. En fin de semaine dernière, un consensus semblait tout de même se dessiner autour de sanctions ciblées contre des personnalités, gel d'avoir, interdiction de voyage. Mais là encore, il reste à se mettre d'accord sur le profil des personnes visées. Faut-il se contenter de figures du M23? Cibler des colonels de l'armée rwandaise ou aller jusqu'à épingler des ministres rwandais? Ces questions ne sont pas encore tranchées.
Ce mardi, des centaines de Congolais ont manifesté devant la délégation de l'UE à Pretoria en Afrique du Sud pour réclamer des sanctions. La Suède connaît la pire tuerie de masse de son histoire, déclaration du premier ministre suédois après la fusillade ce mardi dans une école. Un homme a ouvert le feu dans un centre d'enseignement pour adultes de la ville de Orbro à 200 km à l'ouest de Stockholm. Ni l'identité ni les motivations du tireur qui est mort dans la fusillade ne sont connues. Ottilia Ferré, vous êtes à Stockholm, le bilan est déjà très lourd.
La police parle de cauchemar. Une dizaine de personnes sont mortes après la fusillade cet après-midi dans la ville de Orbro à 200 km de Stockholm. Un chiffre qui pourrait malheureusement encore évoluer. Les autorités ne donnent pas pour l'heure plus d'informations sur l'identité ou l'âge des victimes. L'auteur présumé des faits, qui n'était pas connu des services de police, est décédé et agissait seul selon les autorités. Les élèves qui avaient été confinés dans l'école en question et les écoles alentours ont été évacués. Dans une vidéo diffusée à la mi-journée, on pouvait entendre plusieurs coups de feu être tirés et voir des passants prendre aussitôt la fuite. L'alerte avait été donnée à 12h30 ce mardi. Un important dispositif policiers avaient immédiatement été déployés sur zone et de nombreuses ambulances ainsi qu'un hélicoptère avaient été dépêchés sur place. À l'heure actuelle, on ne connaît pas l'identité du suspect ni le mobile de la fusillade qui plonge actuellement la Suède en état de choc.
Ottilia Ferré, correspondante pour RFI en Suède. Le Sénat français s'est penché ce mardi sur un texte très attendu et au parcours chaotique, le projet de loi d'orientation agricole. Il avait été voté par les députés en mai dernier, mais n'était pas allé au bout de son parcours parlementaire en raison de la dissolution puis de la chute du gouvernement Barnier. La mesure phare consiste à promouvoir l'agriculture au rang d'intérêt général majeur, et ce au détriment de l'environnement, Simon Rosé.
Une ambition renforcée avant même l'examen du texte, il s'agit désormais de faire de la souveraineté alimentaire un intérêt fondamental de la nation. Pour cela, des mesures de simplification sur la gestion de l'eau, les bâtiments d'élevage, la gestion des haies. Le but, simplifier donc le métier d'agriculteur au détriment des normes écologiques. À ce titre, la dépénalisation des atteintes involontaires à l'environnement figure également dans ce projet de loi. Le texte n'aborde cependant que timidement un autre enjeu majeur, le renouvellement des générations. Près d'un agriculteur sur deux partira à la retraite dans 5 ans. Ils sont 400 000 aujourd'hui, ils seront 200 000 en 2030. Pour seule réponse, le projet propose la création d'un guichet unique pour faciliter les installations et les transmissions d'exploitation, mais il ne dit rien sur l'accès aux terres ou encore sur la fiscalité, des absences critiquées par les deux syndicats majoritaires, par ailleurs très satisfaits de la levée de nombreuses contraintes. Cette loi d'orientation agricole sera formellement votée le 18 février. Elle est censée apporter une réponse au mouvement de colère des agriculteurs entamé il y a un an. Reste à voir si le compte y sera, alors que le salon de l'agriculture ouvrira ses portes quelques jours plus tard.
Simon Rosé, service environnement de RFI. Et puis ces nouvelles révélations dans le scandale des eaux en bouteille. L'État français a autorisé Nestlé, propriétaire des eaux Vittel, Contrex et Épar, à utiliser des procédés de filtrage présentant un risque pour la santé des consommateurs. Ce sont les médias Radio France et Le Monde qui l'affirment dans une enquête. Le président français Emmanuel Macron réfute, lui, toutes sortes d'ententes ou de connivences avec Nestlé. RFI, il est presque 3h10 à Paris, une heure de moins en temps universel. Tout de suite, les voisins et les voisines sur RFI dans 8 milliards de voisins.